VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 12 personnes ont perdu la vie hier dans une attaque terroriste à Mopti.
En Mauritanie, appel au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz pour une élection transparente en 2019.
Le président Joseph Kabila a exigé à nouveau le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de la RDC.
Le président américain Donald Trump préside aujourd'hui à New York une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Iran.
Et M. Trump a dénoncé hier la seconde femme accusée d'inconduite sexuelle, Brett Kavanaugh, son candidat à la Cour suprême.
L'acteur américain Bill Cosby a été, lui, condamné hier à une peine de 3 à 10 ans de prison pour agression sexuelle.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Ne manquez pas donc cette page de sport. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, une attaque terroriste a fait 12 morts, tous des civils à Mopti. Des assaillants ont attaqué des cars de transport et en ont incendié deux. Auparavant, un soldat malien avait été tué dans une foire hebdomadaire, toujours dans la région de Mopti. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Benaka n'est pas à l'abri des attaques terroristes. Hier vers 9h, deux campements Ibokatane ont été attaqués par des hommes armés, des présumés membres de l'État islamique au Grand Sahel. Ils étaient à bord de plusieurs motos à Inekar, environ 45 km à l'ouest de Benaka. Le bilan provisoire fait état de 12 civils tués. À Mopti, il y a eu une attaque d'hommes armés contre un convoi de Fama escortant des bus de transport. C'était à environ 10 km de Boni. Une partie de l'escorte est même retournée sur Boni et les assaillants, selon les rescapés, auraient incendié deux bus. Dans la région de Tombouctou, des forains de retour de la foire de Diré ont été braqués par des bandits armés entre Diré et Goundam. Avant tout cela, les Fama ont arrêté plusieurs civils après qu'un individu armé non identifié a tiré mortellement sur un militaire en plein foire hebdomadaire à Djoura, situé à 60 km au nord de Tenenkou. Pour certains, cette recrudescence de la violence s'explique par le fait que les militaires maliens étaient mobilisés pour le grand défilé du 22 septembre. Pour la hiérarchie militaire, aucun soldat au front n'a bougé pour le défilé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina voisin, un de nos correspondants nous a signalé hier qu'une vingtaine de terroristes ont été abattus lundi à Pétigolid par les forces de défense et de sécurité, les FDS, en opération de ratissage dans la zone. 9 autres terroristes ont été également tués à Inata, ajoute-t-il, en se basant sur une information de la chaîne nationale RTB qui cite une source sécuritaire.
Au Togo, les parents d'un jeune garçon tué il y a un an à Lomé lors des grandes manifestations de l'opposition contre le pouvoir de Fornia Singbe ont demandé justice hier, après avoir enfin obtenu l'autopsie qu'ils exigeaient. Depuis que Joseph Kokou Zoumeke, 13 ans, a été tué en octobre 2017, ses parents avaient refusé de l'enterrer et laissé son corps à la morgue en insistant sur cette autopsie. Amnesty International, qui a soutenu les parents de la victime dans cette procédure, a invité les autorités à s'engager à combattre l'impunité au Togo.
En Mauritanie, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, est invité à organiser une élection transparente en 2019. C'est un appel de l'opposition dite radicale de son pays. Pour des détails, Joël Zima de notre station partenaire Top Congo FM, qui séjourne ici à Washington.
Pour l'opposition mauritanienne, cela va permettre une alternance pacifique. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion, l'opposition radicale a appelé à une transition en douceur entre président élu, dont la victoire est reconnue par tous, et un sortant jouissant de sa dignité et de son respect. L'opposition a par ailleurs dénoncé comme une restriction des libertés la fermeture lundi soir du centre de formation de Zoulema à Nouakchott, accusé par les autorités de dispenser un enseignement islamiste extrémiste. islamistes en relation avec les frères musulmans, ce que rejette la direction du centre qui assure dispenser un enseignement scientifique et théologique qui n'a rien à voir avec la politique. Cette fermeture intervient après la mise en garde lancée la semaine dernière par le président mauritanien contre l'islam politique. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui va achever son second mandat en 2019, répète régulièrement qu'il ne tentera pas de modifier la constitution pour se représenter, mais ses ministres et ses partisans se disent clairement en faveur d'un troisième mandat.
Le président congolais Joseph Kabila a réclamé hier devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays. Il a en revanche affirmé le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre prochain. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel de leur retrait, a dit M. Kabila, qui en janvier avait réclamé ce départ au plus tard en 2020.
En Afrique du Sud, l'ancien président Thabo Mbeki a accusé le Congrès national africain, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, de ne plus représenter la population, mais d'être, je cite, un parti de noirs, comme l'ancien président Jacob Zuma l'avait dit. C'est ce qui ressort d'un mémo interne de la Fondation Thabo Mbeki divulgué ce mardi dans la presse locale. L'ANC a l'obligation de respecter deux principes. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui l'habitent, les Noirs et les Blancs, et la terre doit être partagée entre ceux qui la travaillent, souligne la Fondation Mbeki, en dénonçant la réforme agraire engagée par l'actuel président Cyril Ramaphosa pour, je cite, « réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid ».
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À New York, en marge de la 73e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'exécutif américain, Donald Trump, doit présider aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité. Le point avec notre envoyé spécial, Raissa Girondin.
Le président américain a convoqué cette réunion pour s'atteler sur le dossier de l'Iran, qui sera éventuellement suivi d'une conférence de presse du dirigeant iranien. Donald Trump devrait tenter d'unifier le Conseil de sécurité à l'idée d'exercer une pression maximale sur l'Iran pour limiter ses activités balistiques, mais qui sera probablement rejetée par la Russie et la Chine. Hassan Rouhani a accusé mardi les États-Unis de vouloir renverser le régime de Téhéran malgré leur proposition de dialoguer. Il a qualifié de terrorisme économique le rétablissement des sanctions par Washington. Parmi les pays africains qui seront concernés par cette réunion du Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Éthiopie seront là en tant que membres non permanents. La présidence du Conseil de sécurité est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant un mois. C'est au tour des États-Unis de le présider durant tout le mois de septembre. Suivront la Bolivie en octobre, la Chine en novembre, puis la Côte d'Ivoire en décembre 2018. Raissa Girondin, VOA Afrique, New York.
Le président américain Donald Trump a dénoncé hier le témoignage de la seconde accusatrice contre son candidat à la Cour suprême. Pour le président américain, cette femme n'a rien pour prouver que Brett Kavanaugh s'est mal conduit dans sa jeunesse. Madame Deborah Ramirez admet qu'elle était ivre et totalement confuse, a ajouté le président américain. Deborah Ramirez, 53 ans, assure que Brett Kavanaugh l'a agressée sexuellement lors d'une soirée bien arrosée à l'université Yale. Auparavant, Christine Blasey Ford avait affirmé que le jeune Kavanaugh et un ami complètement ivre avaient cherché à abuser d'elle lors d'une soirée entre lycéens. Le juge Kavanaugh dénonce une calomnie et clame son innocence. Madame Blasey Ford doit témoigner jeudi sous serment devant la commission judiciaire du Sénat. Monsieur Kavanaugh sera également entendu lors de cette audience publique.
Toujours aux États-Unis, l'acteur américain Bill Cosby a été condamné hier en Pennsylvanie à une peine de 3 à 10 ans de prison pour agression sexuelle. Le juge a ordonné son placement immédiat en détention. Des détails avec Nani Talani.
À l'annonce de la sentence, qui devra être exécutée à l'isolement, le comédien de 81 ans n'a pas réagi. Il avait été reconnu coupable par un jury en avril. Le principal avocat du créateur et héros du Cosby Show a indiqué qu'il allait faire appel et a demandé que son client soit laissé en liberté sous caution dans l'attente de l'examen de cet appel. Le magistrat a rejeté cette demande. Bill Cosby est donc sorti menotté de la salle d'audience portant ses célèbres bretelles. Cependant, l'ex-star pourra formuler une demande de libération conditionnelle après au moins 3 ans de détention. Une telle requête sera examinée par une commission spéciale. Si elle est rejetée, il pourra encore renouveler sa demande. Si toutes ces demandes sont rejetées, Bill Cosby devra passer au total 10 années en prison. C'est donc l'épilogue pour cet acteur qui a marqué tant de foyers à travers le monde, mais avait commencé une descente aux enfers par des séries de procès depuis 2014.
Le roi Abdallah de Jordanie a appelé hier la communauté internationale réunie à l'ONU à un financement urgent de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, après la fin de la contribution américaine qui menace ses activités. Le roi, proche allié des États-Unis au Moyen-Orient, a demandé aux autres pays d'appuyer un plein financement de l'UNRWA et d'autres efforts essentiels pour protéger les familles. Pour le souverain jordanien, ce serait une terrible erreur d'abandonner les jeunes aux forces du radicalisme et du désespoir.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La CEMAC pourrait bientôt connaître son premier emprunt obligataire en plein processus de fusion des marchés de Douala et Libreville. Cet emprunt serait d'une valeur de plus de 30 milliards de francs CFA en phase avec les travaux de fusion des deux places financières de Douala au Cameroun et de Libreville au Gabon. Au Ghana, la Banque centrale maintient son principal taux d'intérêt à 17% malgré les risques d'inflation. D'après le directeur de cette structure, cette décision devrait permettre au pays d'atténuer les possibles chocs issus de la hausse du prix du carburant et de se prémunir contre les effets néfastes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les données économiques et financières du mois de septembre indiquent que la dette publique du pays représentait désormais 65% de son produit intérieur brut. Pour cette année, il est prévu que le Ghana atteigne une croissance de 6,3% pour un taux d'inflation de 8,7% selon les statistiques du Fonds monétaire international. Et la Banque mondiale qui accorde 300 millions de dollars à l'Égypte pour boucler le financement du programme national d'assainissement en milieu rural. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures a quant à elle accordé un premier financement de 300 millions de dollars pour le démarrage de ce programme.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial féminin de basket en Espagne et le Sénégal qui rechute.
Ah oui, les Lions de la Teranga battus 66-75 par la Chine et le Nigeria qui remporte une deuxième victoire contre l'Argentine 75-70. Ces deux équipes africaines qui joueront un match ce mercredi pour une place en quart de finale.
De l'eau dans le gaz entre Pogba et Mourinho.
Paul Pogba qui a été informé par José Mourinho qu'il ne serait plus jamais capitaine des Red Devils aussi longtemps que le technicien portugais serait manager à Old Trafford, révélation du quotidien anglais The Times. Alors que la tension ne cesse de croître entre le champion du monde français et son entraîneur, Pogba, promu capitaine des Red Devils à 3 reprises en l'absence du titulaire Antonio Valencia, ne figure pas d'ailleurs dans l'équipe appelée à affronter Derby au 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Pogba qui a lancé une critique cinglante contre la tactique défensive de Manchester United, accrochée par Wolverhampton 1-0, estimant que les Red Devils devaient jouer pour attaquer.
Réforme des transferts à la FIFA.
La Fédération internationale de football qui s'est rapprochée d'une réforme du système des transferts, puisqu'un comité réuni à Londres est composé de représentants de clubs, de ligues, de joueurs et de fédérations, a entériné des mesures importantes. Celles-ci vont toutes dans le sens d'une limitation des prêts et des commissions d'agents. Un plan visant à créer un centre d'échange pour traiter les transferts a également été évoqué.
Lionel Messi ne jouera pas contre le Brésil ni l'Irak avec l'Argentine.
L'attaquant de Barcelone avait demandé à Lionel Scaloni de ne pas le convoquer. Eh bien, le sélectionneur par intérim a confirmé que la star albiceleste n'était pas convoquée pour les matchs prévus en octobre contre le Brésil et l'Irak. La participation de Lionel Messi à la Copa América 2019 reste incertaine.
Duel à distance en Serie A entre Naples et la Juventus.
Déjà détachée en tête du championnat d'Italie, la Juventus Turin et Naples s'affrontent samedi pour un choc qui vaudra cher. Mais en attendant, ce mercredi, le leader, la Juventus Turin, 5 victoires en 5 matchs, qui accueille Bologne, 18e au classement. Naples, de son côté, doit gagner contre Parme pour maintenir un écart de 3 points avant d'aller affronter la Juve samedi.
Transfert.
Sans club depuis son départ de Moreirense le mois dernier, Ousmane Dramé reste au Portugal. L'ailier franco-malien s'est engagé jusqu'en juin 2020 en faveur de Belenenses, où évoluent notamment Zakaria Bergdic, Hassen Yebda ou encore Merlin Tanjigora.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, maintenant, nos dossiers du jour. Un cas de la maladie à virus Ebola a été confirmé dans la localité de Chioma, dans la province de l'Ituri, au bord du lac Albert, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La victime a été contaminée par sa partenaire décédée après avoir attrapé le virus lors de l'enterrement d'une personne dans la ville de Beni au nord Kivu. Peggy Wabeno a joint Abdallah Pen Maka, gouverneur de la province de l'Ituri.
Il y a un cas de contact recherché au nord Kivu. Elle était en train de changer le nom jusqu'à ce que nous avons pu le retrouver à Chomia. Un cas positif, effectivement. Dès que nous l'avons retrouvé, il était déjà mort. Nous avons procédé à un enterrement sécurisé. Après cet enterrement sécurisé, maintenant, au niveau de la coordination nationale, nous avons reçu un appui pour la vaccination de tous les cas contacts. Chose qui est en train d'être faite parce que nous avons pu enregistrer au moins 75 personnes de cas contacts. Ils ont été vaccinés. Maintenant, le cas de son mari s'est révélé aussi positif, donc il est isolé et le traitement a pu commencer. On va voir dans les jours, les semaines qui suivent, ce que ça pourra donner.
Mais est-ce que Ebola n'est pas devenu une maladie transfrontalière?
Tout ce qu'il y a en principe, les gens ne sauraient pas le confirmer parce que ça se passe encore chez nous, à Ituri. Ce qui est vrai dans cette région où il y a une forte concentration de population, une forte démographie. Le mouvement entre la province du Nord Kivu et l'Ituri, c'est une intense activité, un intense mouvement. Donc, nous demandons à ce que la surveillance soit continue pour qu'on arrive à éviter les pires.
Mais monsieur le gouverneur, est-ce que les attaques perpétrées par des groupes rebelles peuvent constituer un frein dans la riposte contre Ebola?
Effectivement, ce qu'on a vécu ces derniers temps à Beni, avec la suspension des activités de lutte contre Ebola, ça a pu, d'une manière ou d'une autre, freiner un peu ce combat. En Ituri, on ne sait pas encore le confirmer, mais les déplacements de la population, là où la population est en train de vivre dans une certaine promiscuité, ça peut être un des éléments facilitant la propagation de cette maladie. Donc, nous plaidons pour qu'il y ait cette accalmie, qu'il y ait la paix et la libre circulation des personnes et de leurs biens, pour qu'avec le peu de moyens mis à la disposition de la province, que cette lutte soit efficace.
C'était Abdallah Pen Maka, gouverneur de la province de l'Ituri dans le nord-est de la RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Barry, a prononcé un discours hier pour répondre aux critiques dont il fait l'objet de la part de quelques commissaires de l'opposition qui l'accusent de gérer l'institution seule. Des accusations qu'il a rejetées, affirmant qu'il va entamer des démarches dans les jours à venir pour sauver la CENI. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint le politologue Siaka Koulibaly.
Le commissaire issu de l'opposition politique lui reprochait sa gestion de la commission électorale et même des aspects financiers de cette gestion ont été épinglés par les commissaires de l'opposition qui ont fait une déclaration la semaine dernière. Donc Newton Ahmed Barry ce matin répondait à cette déclaration.
Oui, mais est-ce que les commissaires de l'opposition ont donné des faits concrets de malversation? Ou est-ce que c'était juste des accusations qui sont pas allées au fond?
À ce stade, on peut dire que les commissaires de l'opposition, dans leur déclaration, s'en tenaient à des allégations. Ils n'ont donné aucun fait précis, ni aucun chiffre, ni aucun nom de responsable qui serait impliqué. Ils reprochent seulement au président de la commission sa façon de conduire les affaires, en particulier l'animation du dialogue interne à la commission. Donc ils n'ont pas encore atteint le stade où ils pourraient publier des chiffres, des dates, des responsables et des montants.
Concernant justement ces allégations de malversation, le président de la CENI dit avoir saisi toutes les instances de recours. Est-ce que vous pensez que cela pourrait peut-être régler cette question-là?
Sur l'aspect des malversations, ça peut effectivement lui permettre de se blanchir, de montrer qu'il n'a commis aucun acte frauduleux. Effectivement, il n'y a que les instances de recours, notamment la Cour des comptes, qui puissent lui donner ce satisfecit. Mais tout le monde comprend bien que la question financière ne vient qu'en additif à un autre aspect, qui est celui de la gestion de la commission et éventuellement des questions politiques également qui seraient derrière. C'est pour cela que la déclaration ne suffit pas à régler le conflit qui oppose maintenant Ahmed Barry et certains commissaires de la CENI. Mais il faudrait à partir de maintenant que probablement d'autres acteurs interviennent dans le processus, notamment les partis politiques qui désignent les commissaires. Je veux parler ici de l'opposition et de la majorité, mais aussi même le corps de la société civile qui est aussi un arbitre entre les deux partis. Donc il va falloir tout certainement remonter à ces acteurs-là, également les acteurs du gouvernement, notamment le ministère de l'administration territoriale, voire le premier ministre, pour voir dans le fond quels sont les thèmes sur lesquels il y a des accords et comment on peut les contourner. Parce que normalement, Newton Ahmed Barry aurait dû immédiatement convoquer une plénière de la CENI qui aurait soit aplani l'affaire, soit fait une déclaration qui clarifie la situation qui prévaut. Mais dans un tel contexte, il se renvoie la balle mutuellement. Donc il est assez difficile pour les acteurs extérieurs de comprendre la situation.
Joint à Ouagadougou, le politologue burkinabé Siaka Koulibaly.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, la fin de l'hivernage est difficile pour les millions de personnes affectées par des inondations dans plusieurs états du pays. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison d'inondations qui ont causé des déplacements massifs et la mort de plus de 30 personnes. Et l'Agence nationale pour la gestion des urgences tente d'évacuer les sinistrés. Au moins 7 États sont encore en difficulté. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba, vient d'effectuer une visite dans l'État de Kogi, le plus affecté. Voici son reportage.
Des maisons submergées, des personnes qui tentent laborieusement de se déplacer en portant des bagages sur leurs épaules, c'est le quotidien de plusieurs milliers de personnes sinistrées dans l'état de Kogi au centre du Nigeria. Des familles qui ont tout perdu et qui trouvent provisoirement refuge chez des proches ou dans les centres de déplacés. La situation est particulièrement préoccupante à la périphérie de Lokoja, la capitale de l'état de Kogi, sous les eaux depuis 3 semaines. Victor Abaya et sa famille ont tous quitté et leur maison est encore sous les eaux.
C'est un désastre naturel, mais c'est surtout en 2012 que nous avions connu des plus graves inondations. Ici, nous avions appris, selon l'histoire, que le même scénario s'était produit 35 ans avant celui de 2012. Nous étions aussi obligés de quitter en 2012 et ils ont dit que le gouvernement avait offert quelques maisons aux sinistrés. Certains ont bénéficié, mais d'autres non.
Emmanuel Ukechukwu a déménagé dans ce quartier et vit sa première inondation.
J'ai déménagé ici il y a 2 ans, mais selon les résidents du quartier, cela s'est produit depuis 2012. En 2015, il y a eu des inondations et cette année encore, nous vivons la même chose. Moi, c'est ma première expérience et donc j'ai pris mes bagages et ma famille pour partir d'ici. Nous sommes dispersés, ma famille vit quelque part et moi je vis dans un autre endroit.
Les autorités des États de Kogi ont recensé plus de 26 000 personnes chassées de leurs habitations par la montée des eaux dans 9 localités. Des postes de commandement de crise ont été mis en place pour notamment coordonner les opérations d'aide aux personnes affectées. Younoussa Fatima est mère de 7 enfants, sa maison a été détruite et aujourd'hui elle a trouvé refuge dans ce centre de déplacés.
La majorité des gens que vous voyez ici viennent des villages. Ces inondations ont affecté beaucoup de personnes. Certains ont perdu leur habitation et d'autres se sont déplacés d'un village à un autre à la recherche d'abri. Et l'eau est venue les poursuivre encore jusque là-bas. Des champs ont été détruits. Ils n'ont plus à manger. manger et d'autres n'ont même pas où mettre leurs bagages.
L'Agence nationale pour la gestion des urgences, NEMA, a déclaré la semaine dernière l'état de catastrophe nationale en raison d'inondations qui ont causé la mort d'une trentaine de personnes dans l'état de Kano et quelques 10 000 habitations détruites. Au total, 7 états sont encore dans une situation difficile à l'image de Lokoja où les eaux ont atteint 11 mètres de haut, soit le seuil atteint lors des inondations de 2012 qui avaient fait plus de 2 millions de sans-abri. Gilbert Tamba Kogi au centre de Nigeria pour VOA Afrique.
En Libye, environ 500 000 enfants sont en danger immédiat à Tripoli, la capitale, en proie à des affrontements meurtriers depuis près d'un mois, déplore l'UNICEF qui s'inquiète de nombreuses violations graves des droits de l'enfant à Tripoli. À quel danger sont-ils précisément confrontés, ces enfants ? Nanit Talani a joint Abdelrahmar Gandour, représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye.
La situation des enfants en Libye est effectivement très grave, en particulier à Tripoli, où 500 000 enfants à 500 000 sont en danger. En danger direct d'abord, à cause des combats qui ont lieu en grande partie pour l'instant dans le sud de Tripoli, mais qui pourraient bouger. Et nous avons déjà perdu des enfants touchés directement par des balles et par des éclats d'obus et de roquettes. Des enfants qui ont été blessés, des enfants qui sont recrutés et utilisés par les milices armées actuellement. En plus de cela, il y a une épidémie de rougeole qui a lieu actuellement en Libye, plus de 500 cas pour l'instant, et la majorité de ces cas sont des enfants de moins de 15 ans. On rajoute à cela le fait que l'année scolaire commence dans quelques jours et que les enfants ne peuvent pas retourner à l'école.
En ce qui concerne l'épidémie de rougeole, qu'est-ce que l'UNICEF compte faire pour protéger ces enfants qui sont exposés à cette épidémie?
Nous comptons faire une campagne de vaccination dans l'intégralité du territoire, ce qui veut dire environ 3 millions d'enfants. Et pour faire cette campagne, il faut que nous soyons dans un climat de paix pour que nos équipes puissent faire leur travail et puissent diffuser, se disséminer dans l'intégralité du territoire, y compris à Tripoli. Il est impossible de faire une campagne de vaccination contre la rougeole quand des roquettes vous tombent dessus, qu'il y a des tirs de tous les côtés et qu'il y a des barricades à tout coin de rue. Pour qu'on puisse faire cette campagne, il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit respecté.
Quelles sont les actions qu'il faut mener pour que ces enfants aient vraiment la vie à laquelle ils ont droit, un quotidien normal?
D'abord et avant tout, il faut que les combats cessent. Ensuite, une fois que la violence cesse, il faut que l'on commence à désarmer ces milices. Car la Libye est le pays où il y a le plus grand nombre d'armes par habitant dans le monde entier. Empêcher les enfants d'être recrutés ou d'être utilisés par les milices comme elles devraient se faire.
Médecins sans frontières a évoqué il y a 6 jours la situation des hommes et des femmes, mais surtout des enfants qui seraient détenus arbitrairement dans un centre surpeuplé.
Vous faites bien d'en parler, ce sont des enfants invisibles, des enfants dont on ne parle pas. En particulier les enfants non accompagnés et séparés de leur famille qui ont traversé des frontières des pays de l'ouest de l'Afrique ou de l'est de l'Afrique dans l'espoir de trouver une vie meilleure, soit en Libye, soit en Europe. Ce qui nous inquiète en particulier, en plus du fait qu'ils soient détenus, c'est la situation de l'hygiène. Et vous savez, quand l'eau et l'assainissement ne répondent pas aux besoins les plus basiques, les risques d'épidémie sont graves, en particulier le choléra.
C'était Abdelrahmar Gandour, représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du paludisme chez les femmes enceintes. Le paludisme pendant la grossesse représente un problème de santé publique en Afrique. Il provoque des anémies maternelles, des avortements ainsi que des faibles poids de naissance et des retards de croissance chez les nouveau-nés. Pour en parler, nous recevons le professeur Philippe Donen de l'Université Libre de Bruxelles, auteur d'une étude sur la question en RDC. Nous écouterons aussi le docteur Rwamba Toussaint, médecin généraliste au Burkina Faso. Il nous parlera des moyens de prévention. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h
temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.